Bonjour, bonsoir, vous écoutez l'émission Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit. Vous êtes en compagnie de François aujourd'hui. On va voir aussi Nicolas, Janie, Mathieu qui vont intervenir. Aujourd'hui, une émission sur plusieurs sujets. On va avoir un retour sur la consultation publique qui avait lieu pour le projet de piquerie supervisée. Mathieu va nous parler de mobilité durable dans Saint-Jean-Baptiste. Puis Janie va nous parler d'actualité locale et internationale. Plus d'informations sur Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. Alors voilà, on part en musique.
Quand je me balade à Pigalle et que je vois tous ces sex shops ouverts, je ne peux m'empêcher de m'arrêter. Essayez tous ces nouveaux sex shops. Coupés gonflables, foufou en plastique, comme Michel géant. De m'arrêter, essayez tout ce que tu as à me proposer. Fellation Lulu, avec toi dans le cul, toucher rectal, déchirage anal. Ce soit des riscoffes, des polacs, des blacks. Peu importe le coup. Que je vois tous ces camés sur le trottoir, je ne peux m'empêcher de m'arrêter pour leur taxer de quoi me défoncer.
La cible de hordes de drogués, les yeux injectés de sang, les mains d'assassins et les bras dégoulinants de sang. C'est du moins ce que semblent croire certaines personnes face au projet du centre d'injection supervisée piloté par Point de Repère, un organisme qui vient en aide aux utilisateurs de drogues injectables, ce qu'on appelle les UDI. Alors, ils tentent d'instaurer un centre pour aider ces gens-là à s'injecter en toute sécurité. Et il y a une consultation publique ce samedi 14 mai. Et on va aller voir ça. Le centre d'injection supervisée, ça constitue plusieurs bénéfices. La construction pourrait permettre d'aider la santé des UDI. On parle d'une réduction de 35% des surdoses mortelles. On parle aussi de limiter la transmission du VIH et de l'hépatite C, qui est un fléau chez les UDI. On parle même de baisse du taux de la criminalité, aussi la baisse des seringues qu'on retrouve dans les lieux publics suite à l'implantation d'un SIS, d'un centre d'injection supervisée. Donc beaucoup de bénéfices qui sont attendus de ce centre-là. Beaucoup de questions sont soulevées, des craintes venant surtout des commerçants. Et le ministre Bolduc ne s'est pas fait très rassurant. Le ministre Yves Bolduc, le ministre de la Santé, il a affirmé hier, et je le cite, « Les gens qui veulent mettre ça en place disaient qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a un consensus social. Et là, je viens de voir toute la gang de Saint-Roch qui sortent pour dire qu'ils ne veulent pas de ça dans leur quartier. » Et là, je cite Yves Bolduc. Évidemment, quand il parle de voir toute la gang de Saint-Roch, il parle des citoyens qui comptent, c'est-à-dire les commerçants, les gens plus nantis. Les autres, évidemment, ne sont pas trop importants. Donc, consultation publique sur le centre d'injection supervisée, samedi 14 mai. Allons voir ça.
Alors, ici.
Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis une membre de la DIC. Je dois vous avouer que je me sens particulièrement préoccupée par la position de pas dans ma cour qui est affichée par la SDC de Québec. Je peux comprendre que dans un pays aussi riche comme le Canada, puis dans une ville assez riche comme Québec, ça soit embêtant de démontrer qu'il y a autant de pauvreté. Mais à un moment donné, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. On vit dans un système capitaliste qui est une machine à produire des inégalités sociales, qui est une machine à produire de l'itinérance. À un moment donné, il faut arrêter de se cacher la tête dans le sable, il faut se retrousser les manches puis se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé globale de tous les citoyens et les citoyennes.
Merci.
Bonjour, moi mon nom est Lynn Dafoe, j'habite dans le quartier Saint-Sauveur. Tout le panel avait l'air tout à l'heure de remarquer en tout cas de l'excellent travail de l'organisme Point de repère. La police, les commerçants, la santé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je voudrais juste faire remarquer qu'en 1989, ça a ouvert, qu'il y a eu une levée de boucliers, en fait, contre cet organisme-là. Autant de la part, il y avait une méfiance des corps policiers, il y avait des commerces étaient contre, puis en général, dans les quartiers, ils n'étaient pas tellement d'accord quand ça a ouvert au pied de la falaise. Même moi, je n'étais pas tellement contente de leur venir. À ce moment-là, j'étais plutôt dans Saint-Roch. Je m'étais même présentée pour leur dire qu'ils encourageaient le monde à prendre de la drogue. Alors, c'est pour vous dire que peut-être des fois, puis maintenant, 20 ans après, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils font un excellent travail.
Vous dites être contre, nous autres, les toxicomanes, nous qui êtes avec le problème, qui est infecté, vous offre une solution, vous transmet une solution, on se bat pour établir quelque chose qui va protéger les toxicomanes, qui va empêcher les citoyens de Saint-Roch de subir notre toxicomanie, d'empêcher les enfants de voir ce qu'on est, de diminuer la propagation de l'hépatite C, du VIH. C'est nous autres qui vous offrent des solutions, puis c'est vous autres qui nous mettez des bâtons dans les roues.
Merci. Monsieur? Oui, bonjour, moi c'est un commentaire.
Votre nom?
Mon nom c'est Jean Seaborn. Aujourd'hui, je vais mettre un commentaire en tant qu'intervenant depuis une vingtaine d'années en toxicomanie, en centre-ville de Québec. Pour moi, un SIS, ce qu'on a moins parlé comme intervenant, c'est de pouvoir rejoindre les personnes. Parce que moi, dans mes 20 ans, ce que j'ai pu remarquer, la difficulté avec les gens qui étaient le plus hypothéqués sur le plan de la consommation, c'était de les rejoindre. Donc, c'est d'aller vers eux. Et quand on rejoint ces personnes-là, mettons avec un SIS, c'est que ces personnes-là, on va établir un contact avec elles. Et quand elles voudront diminuer ou arrêter de consommer, le lien sera fait, on pourra référer assez immédiatement dans des ressources. Parce que souvent, la personne qui veut cesser de consommer, c'est important d'avoir eu un lien avec. Puis si on a un lien de 15 minutes, de 20 minutes avec, des fois c'est 20 minutes que la personne n'a pas consommé, On a échangé, on a parlé ensemble, il s'est formé une confiance ensemble. Fait qu'on a l'aspect physique qui est important, on dit la transmission des maladies, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Si une personne se met à mieux se sentir dans sa peau au contact des intervenants, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une démarche qui se fera. Merci.
Merci, M. Thibault.
C'est intéressant en voyant les interventions du public. Il faut dire, hein, la salle est bondée. Visiblement, le projet de piquerie supervisée, ça a interpellé les gens. Beaucoup de gens de Saint-Roch, du quartier, qui s'intéressent à leurs intérêts. Il y a absolument de tout, là. C'est très varié. Il y a des jeunes, des vieux. Il y a beaucoup de consommateurs de drogue qui viennent s'exprimer aussi au micro, à tour de rôle. Des commerçants, des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. Mais surtout, il y a une majorité des gens se montrent clairement pour l'implantation du SIS.
Allez-y. Nicolas Gagné, je suis résident du quartier Saint-Sauveur. Ça va être court. Moi, j'ai travaillé dans deux restaurants dans le quartier. J'ai travaillé chez Ashton. On retrouvait fréquemment des seringues utilisées dans les poubelles, dans les toilettes. Je travaillais aussi au café Bistro Vanout. À un moment donné, j'ai vu sortir quelqu'un des toilettes qui venait de vraisemblablement de se piquer. Il y avait du sang sur lui. Par un beau samedi matin à 10h30. Donc, ça surprend un peu, surtout dans un contexte où on veut que ce soit familial comme quartier. Et c'est exactement pour ça que moi, je serais d'accord avec un site comme ça qui encadrerait la consommation. Et je veux juste ajouter qu'en tant que personne qui a l'intention d'ouvrir un commerce dans le centre-ville, moi, ça me rassurerait énormément que cette consommation-là soit encadrée.
Merci.
Bonjour, c'est Annie, je suis commerçante dans le quartier Saint-Roch. Je voudrais dire premièrement que, à mon avis, je viens me prononcer en toute humilité parce qu'à mon sens, les commerçants ne devraient vraiment pas avoir le dernier mot sur ce débat-là. Je pense que l'essentiel se situe ailleurs. Je voudrais dire aussi que les commerçants et les gens d'affaires ne sont pas tous représentés nécessairement par la Société de développement du centre-ville. Il y a de nombreux gens d'affaires et commerçants qui n'adhèrent pas à cette société, plusieurs d'entre eux ne partageant pas la vision unilatérale d'investisseurs. En tant que commerçant, il y a plusieurs arguments de la SDC qui ne me convainquent pas. Selon Stéphane Sabourin, l'implantation d'un SIS augmente le taux de criminalité et ce n'est pas propice au développement. Les recherches prouvent qu'INSAID à Vancouver améliore l'ordre public et qu'aucune hausse de crime n'est notée. Là-bas, il y a 60% des résidents et commerçants qui disent qu'INSAID améliore l'ordre public et 80% d'entre eux souhaitent qu'INSAID soit conservé. Le service de police de Vancouver soutient que le SIS permet d'améliorer la santé et la sécurité publique et une étude menée par la GRC n'a trouvé aucune preuve qu'INSAID augmente le nombre d'usagers et de vendeurs de drogue ni qu'il nuirait à l'ordre public. Les études démontrent une hausse de 30% de l'usage des programmes de désintoxication reliés à la fréquentation d'INSAID qui a permis d'économiser plus de 6 millions de dollars par année en services de santé et de gagner au total 1070 années de vie. Comme visiblement les gens d'affaires aiment les chiffres, on en apporte. Insight, ça sauve des vies, pas juste de l'argent. Stéphane Sabouret annonce également que ce n'est pas avec un tel service qu'on va attirer des familles dans le quartier. J'enlève mon chapeau de commerçant, puis je mets celui de résident et de femme souhaitant avoir des enfants et les élever dans le quartier, et je ne peux que souhaiter le faire dans un milieu solidaire, sûr, et je ne peux également que saluer le travail de Point de repère qui ont ramassé quelques 198 000 seringues souillées sur le territoire de la base des Limoilou. Pour moi, un site d'injection supervisé, ça enlève des injections dans les lieux publics et ça me fait sentir dans un quartier qui est plus sûr et qui est plus responsable.
Merci. Alors, on va entendre bientôt Stéphane Sabourin. Stéphane Sabourin, c'est le porte-parole de la SDC, la Société de développement commercial, donc l'Association de commerçants du Nouveau Saint-Roch gentrifié. Et Mario Gagnon, qui est le directeur de Point de repère, disait jusqu'à récemment qu'il ne trouvait pas d'opposant au projet de SIS. Il avait beau chercher, il n'en trouvait pas. Et puis, il y a quelques semaines, tout d'un coup, la SDC a fait une apparition publique et ils ont dit qu'ils se prononçaient contre le SIS. Alors, la SDC, les gens d'affaires, s'opposent, se sont prononcés publiquement contre ce projet de SIS. Et Stéphane Sabourin va expliquer leur point de vue.
À la question si ça va contribuer positivement ou négativement, évidemment, notre position, c'est qu'on pense que ce sera négativement à l'avis de la majorité des parties prenantes. D'abord, on ne remet absolument pas en question l'excellent travail de Point de repère dans notre environnement, ni la bonne volonté de l'organisme et des organismes associés de faire le meilleur travail possible. Nos membres, et ce qu'ils nous le mentionnent clairement, c'est malheureusement ce que ça amène. Les organismes qui s'occupent de ces, évidemment de SIS par exemple, ne contrôlent pas la volonté de certains revendeurs de vouloir s'installer dans un environnement à proximité. C'est incontrôlable et c'est un fait réel. Et les statistiques se contredisent là-dessus, mais évidemment, nous, on va mettre en avant les statistiques qui, effectivement, disent qu'il se crée des cellules de revente de drogue à proximité. Et évidemment, toutes sortes d'autres activités qui nuisent à la vie globale de la majorité.
Pourquoi notre ville de Québec devrait avoir ce centre avant d'autres grandes villes comme Toronto, Montréal, Calgary et bien d'autres? Des questions de nos membres ont été à l'effet qu'on voit souvent des malades dans la rue, qu'on voit souvent des gens autres qui ont des problèmes autres que ceux mentionnés. Est-ce qu'on a un problème de pénurie d'infirmières et de médecins au Québec? Est-ce que actuellement ces sommes qui représentent près de 110 lits seraient donc consacrées et peut-être perdues alors qu'on pourrait approcher ces services près des hôpitaux pour répondre à ces besoins que nous estimons encore une fois importants? Notre travail, à nous, c'est de vous parler de la revitalisation, de vous parler des investissements dans le quartier, de vous parler du milieu de vie, puisqu'il s'agit aussi des travailleurs et non pas seulement des commerçants, et de regarder l'image d'une rue qui a cette clientèle avec, évidemment, des commerces placardés, et d'imaginer facilement que des commerçants pris sous un mail qu'on vient d'enlever ne veulent surtout pas revivre ce qu'ils ont vécu ces 25 dernières années, c'est-à-dire une dévitalisation, une fragilité commerciale, évidemment que le centre de notre ville ne soit pas encore une fois dans une situation critique et difficile. Nous allons présenter une vidéo. Attention, je veux d'abord la positionner, cette présentation de vidéo, et vous dire que vous n'allez pas voir des injections, parce que ça pourrait être rebutant, puis l'idée, c'est pas de susciter des émotions. Alors, il n'y a pas de son, évidemment, pour qu'on... Peut-être de la musique juste à la fin, seulement. Et on vous laisse lire les commentaires.
Alors là, c'est assez particulier, parce que les gens du SDC, les gens qui s'opposent au projet de centre d'injection supervisée, les gens, les commerçants de la Société de développement commercial, le SDC, sont en train de montrer le vidéo de 4 minutes qui a servi à forger leur opposition, à se faire une idée sur le cas du SIS.
Alors, on a voulu évidemment centrer le débat autour de l'artère commerciale et de ses façades.
Et c'est une vidéo vraiment odieuse, c'est une vidéo de propagande qui est vraiment honteux à avoir. 4 minutes de silence avec des images des quartiers, les pires quartiers de Vancouver, un lieu où il y a eu un centre d'injection supervisé qui s'appelle Incité qui a été installé.
S'il vous plaît, on vous demande de ne pas commenter pendant le
La vidéo de la SDC montre les quartiers dévastés, les commerces fermés, les poubelles dans la rue, un quartier vraiment pas joli de Vancouver. Et la vidéo est tellement malhonnête que vers la fin, ils ont même rajouté pour être bien sûr là, qu'on soit terrorisé, ils ont rajouté de la musique de films d'horreur. C'est vraiment... disons que cette vidéo-là n'a pas eu l'air, par contre, de convaincre l'auditoire. Ça a suscité plutôt des railleries. Donc ça prouve, dans le fond, là, en voyant la vidéo, que les gens qui sont contre le projet sont clairement nourris par des préjugés et des mauvaises informations.
L'idée, c'est pas de susciter des émotions.
Je m'appelle Nancy Trudel, je suis une ancienne toxicomane, bien, je suis encore toxicomane, puis je suis impliquée au Point de repère dans beaucoup de projets. J'ai fait partie des guides de rue, c'était un projet de bénévole qui a duré 5 ans. Puis sur les 20 personnes qui ont participé à ce projet-là, c'est sûr qu'il y en a 5 qui sont mortes, mais les 15 autres qui sont vivants, il y en a juste une qui consomme encore, tu sais, fait que l'empowerment, c'est important. Puis ça, là, le site d'injection supervisée, c'est pas qu'on veut que tout le monde vienne se geler à Québec, c'est pour ceux qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'endroit, c'est pour pas qu'ils fassent d'overdose, c'est pour avoir un contact avec ces gens-là, parce que une personne comme moi peut rejoindre 17 personnes que les intervenants peuvent pas rejoindre. Donc, c'est ça qui est important. Puis, éventuellement, ces personnes-là, ils vont aller là. Déjà, c'est une prise en charge de faire la démarche, de se rendre là-bas, parce qu'ils pourraient le faire dans les ruelles. Puis, tout le monde chiale qu'il y a des seringues qui traînent partout. Ça, ça réglerait le problème aussi, les overdoses. Puis, les vols, là. Moi, j'ai jamais volé. J'étais toxicomane, puis je volais pas. Fait que ça veut pas dire que tous les toxicomanes sont des voleurs. Je trouve qu'on est stigmatisé déjà beaucoup.
Tu trouves pas justement dans les conversations, dans les débats, tu trouves pas justement qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport aux utilisateurs, aux UDI qu'on appelle?
Oui, puis je me suis sentie vraiment accusée, jugée, condamnée. Puis tu sais, mon pharmacien, c'est à rue Fleury, Brunette, la dernière fois qu'on a fait une rencontre, lui, il a dit qu'il y avait un de ses clients qui a fait un vol à la seringue. Puis il a même pas eu peur, il a même pas été traumatisé parce qu'il savait que le gars, il ferait pas rien, tu sais. Mm-hmm. Puis... des voleurs, il y en a partout, là. C'est pas juste les toxicomanes. Moi, je trouve ça dur, tu sais, de vivre avec cette étiquette-là.
Là, on parle du DI, on parle de SIS, mais en réalité, ça recoupe tous les intérêts des gens en bas, des gens de la classe des opprimés, dans le fond. Puis c'est curieux, parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais l'opposition, dans le fond, au projet vient essentiellement des commerçants, des gens qui sont aisés, des gens qui appartiennent pas, dans le fond, à notre classe, dans le fond, tu sais. Ouais. C'est drôle de voir
ou
ça, tu sais.
Des résidents qui ont de l'argent, là, qui sont dans un condo.
C'est ça, des propriétaires.
Ouais. Puis ce qu'ils veulent, dans le fond, tu sais, ils ont fait le ménage, la police a fait le ménage, tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de monde pauvre à Saint-Roch, tu sais. Puis c'est difficile pour quelqu'un qui est natif de là. Même moi, quand je passe à tous les jours, j'ai déménagé de la Haute-Ville à cause de ça. J'étais tannée. Puis en basse-ville, c'est pas mieux. Fait que là, je suis rendue plus loin. Mais tu sais, c'est comme bien, bien difficile. Le monde n'a aucune compassion, tu sais. J'ai déjà vu du monde coucher à terre. Personne ne faisait rien, tu sais. C'est difficile. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas de voix. C'est comme votre station radio qui veulent fermer parce que vous exprimez trop fort vos opinions.
Moi, j'ai l'impression que c'est déjà tranché, les opinions. Dans le fond, c'est une classe de privilégiés contre une classe de gens...
De démunis.
Est-ce que tu vois ça comme ça?
Oui, très, très. Ça me fait penser un peu au documentaire que j'ai vu hier, là, qui avait mis une grosse clôture là, pour pas que les gens du Zimbabwe aillent en Afrique du Sud. C'est un peu le même principe, là.
C'est quoi le documentaire?
Je me souviens plus, mais c'était à propos du Zimbabwe qui ont fait une grosse clôture de 4000 km qui veulent pas que les réfugiés passent. Tout le monde passe pareil. Puis ils restent des années là, plantés, là. Puis ils veulent pas les aider parce qu'ils se disent plus qu'ils vont, ça va être difficile, plus qu'il va y avoir moins de monde qui va venir. Fait que bientôt, je pense qu'on est à veille de se faire expatrier à Saint-Gugule, je sais pas trop quoi.
Dans le fond, toi, tu fais un lien, dans le fond, entre la barrière qu'ils ont érigée au Zimbabwe, entre, mettons, un pays plus riche puis un pays plus pauvre.
Fait que là, c'est ça. Je fais la même comparaison. Tu sais, ça a toujours été Haute-Ville, Basse-Ville. Le monde riche en haut, le monde pauvre en bas. Mais là, on se fait vraiment... c'est nous autres quasiment qui se fait harceler par les commerçants. Tu sais, ils veulent plus qu'on fume sur le trottoir après nos meetings. Ils nous traitent de drogués de... « Hey, on est en train de faire un meeting! On se prend en charge! » Tu sais?
C'est important aussi de mentionner que les opposants, donc la SDC, la Société de développement commercial, ils sont pas forcément contre le projet de SIS. Par contre, ils aimeraient que ce soit ailleurs que dans leur quartier. Ils aimeraient, eux, que le SIS soit implanté près d'un hôpital. Alors que le projet qui est piloté par Point de repère, Mario Gagnon, dit que le centre d'injection doit se trouver plus près des utilisateurs. Et les gens de la SDC, ils invoquent... dans leurs arguments, ils disent que les études sont contradictoires sur les bénéfices du SIS. Et de son côté, le ministère de la Santé indique qu'ils veulent attendre le jugement de la Cour suprême. Le jugement de la Cour suprême va statuer sur le cas de Incité, qui est un autre SIS en Colombie-Britannique. Et le ministre Bolduc, le ministère de la Santé, se cache derrière ce jugement-là. Ils disent « on fait rien tant qu'on n'aura pas le résultat de ce jugement de la Cour suprême ». Pour ce qui est des études soi-disant contradictoires, il y a l'ADIC. L'ADIC est une organisation d'aide aux consommateurs de drogue qui a mis sur son site des sources fiables. Vous pouvez voir leur site sur l'injecteur.ca. Et les recherches qui ont prouvé que INCITE, le SIS en Colombie-Britannique, a aidé à améliorer l'ordre public. Donc, il n'y a eu aucune hausse de crimes et même une baisse de vol de voitures et dans les voitures suite à l'installation du SIS. Ensuite, le SIS n'encourage pas les gens à consommer. Au contraire, même que ça peut arrêter les gens à consommer de la drogue. Et il faut dire, même sur d'un point de vue commercial, l'instauration d'un SIS peut être bénéfique. L'instauration du SIS INCITE en Vancouver a permis d'économiser 6 millions de dollars par année en services de santé. Alors, la présence d'un SIS est non seulement bénéfique pour la sécurité, elle l'est aussi pour la santé et, incidemment, c'est même cohérent du point de vue du développement commercial. Ça peut aider le développement commercial. Alors, je vous invite à aller voir le site de l'organisation LADIC sur l'injecteur.ca. Et voilà. Donc, c'était le reportage sur la consultation publique pour l'installation d'un centre d'injection supervisé. C'était un reportage de François.
L'idée, c'est pas de susciter des émotions.
Là, on va y aller avec l'entrevue avec l'ADIC, donc l'Association de défense de droits et d'inclusion des personnes qui consomment des drogues du Québec. Donc, je vous laisse écouter ça. C'est ça?
Ben absolument.
OK.
Juste que les gens savent qu'il y a un mouvement qui existe, puis ce mouvement-là, il est vraiment fort, puis bien organisé.
Oui, il est bien organisé.
Il est bien organisé, puis le COBP de Montréal, comme... travaille en collaboration avec ce mouvement-là.
Et plein d'autres réseaux, la COXDA, ou plein d'autres organismes aussi, parce que justement, cette population-là, mais comme va vous le dire aussi Marie-Ève et François dans l'entrevue, je vous laisse l'écouter.
Oui,
après ça,
absolument.
On en parlera.
Oui, absolument.
On
absolument.
Fait ça de même,
oui.
Donc on y va.
Très belle entrevue en passant. Hein.
Très, là.
Jouissez de vos oreilles. Peuple du monde, écoutez.
On y va. Donc, l'entrevue avec l'ADIC. Merci, l'ADIC.
Aujourd'hui, à l'émission Noir les chevaux de bataille, c'est les droits à la santé pour les consommateurs, parce qu'on sait que souvent, ceux qui consomment des drogues sont mal reçus dans les services de santé. C'est la fin de la répression policière, parce que les gens qui consomment sont souvent stigmatisés puis vivent beaucoup de répression policière. Ils sont vus comme des criminels. Puis aussi, on aime ça que les consommateurs soient inclus dans les décisions qui les touchent. Rien à notre sujet sans nous. Donc, comme en ce moment, l'ADIC est beaucoup en faveur des services d'injection supervisée. Puis on aime ça quand les gens qui montent des dossiers comme ça, ben demandent aux consommateurs comment ça devrait être fait pour que les services soient adaptés à leurs besoins.
Super. Fait que c'est ça. Puis tu disais que, ben tout à l'heure on parlait, puis là tu disais qu'il y en avait plusieurs à travers le Québec. Fait que vous êtes à peu près combien de membres environ en tout?
Actuellement on est plus de 200 membres à la grandeur du Québec. Puis on est présent en particulier dans quelques régions, donc à Montréal, Québec, en Estrie, en Outaouais et en Abitibi.
OK. Oui, OK, d'accord. Puis donc c'est quand on dit c'est pour qui, c'est bien sûr pour les utilisateurs de drogue injectables ou pas, ou les utilisateurs de drogue tout court. Puis moi je suis membre de l'ADIC, mais je m'injecte pas ou tu sais, bon, mais quand même je supporte grandement votre. Fait que ça peut être monsieur, madame, tout le monde aussi qui est membre sympathisant et membre quoi? Je me rappelle plus.
Ben il y a les membres réguliers. Mm-hmm. Les membres ça c'est les membres qui les gens qui se voient comme des consommateurs okay. de drogue. C'est une association où t'es pas obligé de te piquer pour être membre de l'ADIC régulier. C'est les consommateurs de drogue en gros, là, que tu fumes du crack ou que tu sniffes de la poudre. Mais c'est sûr que c'est pas vraiment une association pour défendre les droits des gens qui fument du pot. Mm-hmm. C'est plus les drogues dures.
Oh oui, comme tu disais, l'accès des soins de santé. Oui. Ça, ouais.
Et puis, ben, y a les membres sympathisants. Ça, c'est des gens qui se voient pas comme des consommateurs de drogue ou des fois des gens qui consomment mais qui veulent pas s'afficher en tant que consommateurs de drogue, mais qui sont sympathisants de notre cause puis qui veulent appuyer, fait que qui viennent avec nous dans les manifestations puis tout.
Super. Et puis, vous avez aussi un journal. Ben, un journal qu'on dit ça, oui, OK. Ben, c'est l'injecteur. Fait que ça, j'aimerais ça que vous nous en parliez parce que je trouve ça super intéressant. Puis, c'est ça.
Ben, l'injecteur, c'est un journal par et pour les utilisateurs de drogues injectables et inhalables. C'est partout dans le Québec aussi. Et puis, on en envoie dans l'ouest du Québec, l'ouest du Canada aussi, d'un peu partout dans le Canada, puis dans l'Europe francophone. Il y a des... les infomanes, c'est des gens qui recherchent l'information puis qui écrivent dans le journal régulièrement parce qu'il y a 4 journaux par année. Fait que c'est des gens qui sont payés pour écrire dans le journal puis aller dans des ressources pour trouver des gens qui vont faire des textes, qui vont faire des dessins, comme la page couverture puis tout ça. Et puis, c'est ça. Fait que on est mandaté pour faire... pour que les gens puissent avoir l'information pour consommer sécuritairement.
Puis, bien, ça, on me demande souvent la question parce qu'il y a des gens qui vont voir ça, l'injecteur, ici et là. Puis, en tout cas, moi, je travaille au Bureau régional d'Action SIDA, fait qu'on en a. Mais sinon, on peut se procurer ça comment? On peut-tu s'abonner ou quelque chose?
Bon, vous pouvez vous abonner. En fait, l'injecteur, c'est gratuit. Mais les gens, ils peuvent s'abonner. Puis ça, c'est super important parce que... c'est pour les frais postaux. Puis les gens qui ont l'argent pour s'abonner, on va pouvoir utiliser cet argent-là pour l'envoyer gratuitement à des gens qui habitent en région, puis tout gratuitement. Fait que les gens qui n'ont pas l'argent pour s'abonner, ils vont le recevoir pareil. Fait que c'est pour ça que c'est super important quand les gens ont le moyen qu'ils s'abonnent. Puis il est distribué un peu partout, là. On l'envoie dans les régions... dans le Québec, et puis il y en a qui est dans des bars, dans des CLSC, dans des tattoo shops, dans des cafés, des restaurants, et dans plusieurs places.
OK. Puis si on veut s'abonner, y a-t-il un coût fixe?
Pour s'abonner, il y a un coupon à la fin de l'injecteur, et puis...
OK, c'est écrit là.
C'est pour un abonnement d'un an, c'est 15$ pour un ou deux numéros.
OK.
Fait que c'est pas cher, puis ça vaut la peine parce que c'est un journal
très
intéressant.
Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Fait que c'est à l'injecteur.ca hein, qu'on peut trouver ça. Ouais. OK. Bon, www.injecteur.ca. L'injecteur. Donc, qu'est-ce que c'est ça? OK. Un des sujets, un des dossiers chauds, je trouve, puis qui m'intéressait beaucoup aussi de vous parler, c'était le dossier sur les sites d'injection supervisée. Fait que, peut-être dire à nos auditeurs de personnes expertes comme vous, c'est quoi des sites d'injection supervisée, pourquoi, puis pourquoi il en faut, pourquoi c'est un besoin essentiel. Donc, je vous laisse la parole.
OK. Bien, dans le fond, un service d'injection supervisée, SIS, c'est une place où les personnes qui consomment des drogues par injection peuvent aller avec leur drogue, donc ils amènent eux-mêmes leur stock. Là. C'est pas, on leur vend pas là-bas ou on leur donne pas là-bas, mais par contre, sur place, il y a des personnes, il y a des infirmières, puis des intervenants qui sont là, qui peuvent aider les personnes, conseiller les personnes, tout ça, si les gens ont besoin de parler ou quoi que ce soit. Mais donc, ça fait un lieu sécuritaire où ce que ça fait dans le fond, c'est qu'il y a une exemption comme le site qu'ils ont à Vancouver, à Insight, qui a été ouvert en 2003. Ils ont une entente avec le gouvernement pour que la police n'applique pas la loi sur les drogues à cet endroit-là. Donc, ils font pas de descente, ils viennent pas même contrôler le monde qui rentre puis qui sort.
Okay.
Comme ça, les gens savent qu'ils peuvent aller là, d'avoir la paix pour pouvoir s'injecter sans problème, puis avoir accès aux services. Il y a toutes sortes d'autres services aussi, là, évidemment, qui tournent autour de ça.
Okay.
Puis donc, c'est ça, c'est super important parce que sinon, sans ça, bien, les gens, ils peuvent recevoir des seringues neuves données par la santé publique, mais après ça, on leur dit comme, bien, bonne chance, tu sais, puis là, ils vont s'injecter ou bien dans la rue ou bien dans des toilettes publiques. Donc, ça entraîne plein d'autres problèmes puis d'autres... désagréments, si on veut, pour tous les gens. Puis évidemment, bien, les personnes qui doivent consommer en regardant si la police n'est pas là, tout ça, bien, ça fait que c'est des conditions moins sécuritaires, ça fait qu'ils risquent peut-être de se blesser, de rater leur shot, d'avoir plein d'autres problèmes. Donc, c'est un service essentiel. Puis c'est, dans le fond, de reconnaître que la santé publique, bien, c'est plus important que les considérations de sécurité publique d'appliquer la loi sur les drogues.
Ouais.
Et malheureusement, pour le moment, évidemment, le gouvernement conservateur essaie de faire fermer Insight depuis plusieurs années. Et ils s'en vont en Cour suprême du Canada le 12 mai.
Okay.
Il va y avoir des audiences dans cette cause-là. Puis, ben, à Montréal et à Québec, il y a des groupes, à Montréal, c'est Cactus, puis à Québec, Point de repère, qui ont annoncé leur intention d'ouvrir des SIS. Et ça, peu importe, en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont annoncé au début, c'est que peu importe la décision de la Cour suprême, vu que pour le moment, c'est une urgence d'ouvrir ça. Entre autres, ça réduit les infections au VIH ou à l'hépatite C. Ça évite les morts par overdose, vu qu'il y a des intervenants sur place qui sont là pour aider les gens. Donc, il y a urgence. Puis, à date, tout le monde est d'accord que c'est un service essentiel, que c'est un service de santé qui doit exister. Mais il y a juste le gouvernement conservateur qui est contre. Puis, au Québec, ben, il y a le ministre de la Santé, Bolduc, qu'il veut pas se prononcer. Il dit qu'il va attendre la Cour suprême, mais dans le fond, nous, ce qu'on dit, ben, c'est qu'il n'y a pas de raison d'attendre. On sait que c'est un service essentiel, il y a urgence, fait qu'il faudrait en ouvrir tout de suite.
Et voilà. Vous répondez quoi aux gens qui vont vous dire justement les commentaires comme bon, la criminalité, les pocheurs vont peut-être se tenir plus à proximité, puis des trucs comme ça, ou la sécurité même à l'intérieur du site, vous leur dites quoi comme par rapport à ça?
Bien, dans le fond, il y a des études qui montrent que c'est pas vrai que ça fait augmenter la criminalité. Puis de toute façon, ce qu'on peut regarder même dans les endroits qu'on connaît, à Montréal par exemple, les programmes d'échange de seringues, les gens qui se tiennent là, ils savent que c'est un service essentiel pour eux, donc ils respectent le service, puis ils se respectent entre eux autres quand ils vont là, donc c'est pas dans leur intérêt qu'il y ait des problèmes là-bas, donc pour la sécurité, c'est tout à fait sécuritaire. Puis pour ce qui est de la criminalité, ben aussi, vu qu'il y a une entente que la police se tient pas là, mais il y a aussi une entente qu'on vient pas dealer de la drogue dans ces endroits-là, ni en avant, donc puis de toute façon, l'idée d'ouvrir un SIS, c'est parce que ça répond à un besoin des gens qui sont déjà dans le quartier. Fait que c'est pas vrai que ça va faire arriver des gens d'autres places ou, tu sais, des criminels sortis de je sais pas où qui viendraient se tenir là. Puis au contraire, en fait, vu que ça fait un espace où les gens peuvent aller consommer en toute sécurité, ben ça réduit, en fait, les autres crimes qu'il peut y avoir dans le coin, et aussi, ben, le problème des seringues à la traîne et des gens qui vont s'injecter dans des lieux publics ou des commerces. Ça élimine tous ces problèmes-là, dans le fond.
Bien là, malheureusement, c'est ça, comme j'ai vu, c'était quand par rapport au quartier Saint-Roch, dont je t'ai mentionné tantôt. Là, il y a les commerçants qui vont s'opposer à ça, fait que le phénomène pas dans ma cour, il doit être bien présent là, dans vos locaux, puis tout court dans l'organisation, fait que là... C'est un petit peu inquiétant quand même.
Ben ouais, puis c'est surtout déplorable parce qu'ils ont fait cette sortie publique en disant qu'ils sont contre l'instauration d'un SIS dans le quartier Saint-Roch à Québec, mais ils se sont même pas informés à l'avance de savoir c'était quoi les SIS, c'est quoi les conséquences que ça a. Puis ils ont dit des choses justement que ça va augmenter la criminalité, ce qui est pas vrai. Il y a des études qui ont montré qu'à Vancouver, l'ouverture de Insight, ça a pas fait augmenter la criminalité. Au contraire, il y a même des crimes qui ont baissé suite à l'ouverture de Insight. Ils disent que c'est comme d'encourager le problème,
ouais,
entre guillemets, parce qu'ils s'imaginent bon, que juste le fait de consommer de la drogue, c'est un problème, puis que de donner des services aux gens qui consomment des drogues, c'est comme de les encourager.
Les entretenir. Ouais.
C'est ça, mais c'est pas du tout ça. Au contraire, ça crée des liens avec des gens qui ne fréquentent pas d'autres sortes de services. Mm-hmm. Et avec ce lien-là, ben, à la longue, si les gens décident de vouloir arrêter de consommer, ben, ils auront un lien avec des intervenants que sans ce service-là, il n'y aurait pas. Mm-hmm. Mais de toute façon, le principal, c'est pas que tout le monde arrête de consommer, c'est utopique. Le monde a toujours consommé. Absolument. Des drogues, puis ça va toujours exister. Mais ce qu'il faut, ce qui est urgent, c'est d'arrêter les épidémies de VIH puis d'hépatite C qui sont vraiment dans des grandes proportions parmi les personnes qui s'injectent. Mm-hmm. Puis des services comme ça, ben ce serait nécessaire pour ça. Et les commerçants qui veulent pas que les gens aillent se piquer dans leurs toilettes ou en avant de leur commerce, ben pourquoi qu'ils s'opposeraient à ce qu'il y ait un site où les gens pourraient aller faire ça en toute sécurité?
Oui, absolument. Bien, c'est super intéressant. Pour vrai, puis c'est un sujet à suivre. Va-t-il avoir des actions par rapport à vous autres, la DIC, que vous allez comme avoir pour manifester justement votre point de vue là-dessus puis vos positions?
Bien, on a écrit déjà une lettre pour répondre à la Société de développement commercial de Québec qui est sur notre site web. Dans le fond, ce qu'on dit à ces gens-là, c'est qu'ils devraient s'informer avant de prendre des positions comme ça. Puis une fois qu'ils auront l'information, bien, ça va apaiser leurs craintes. À Québec, il y a une consultation publique dans le quartier Saint-Roch le 14 mai. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens de Québec, les gens de Point de repère, entre autres, là, qui vont être là. Puis nous, on va peut-être aller aussi pour voir comment ça se passe, parce que on va s'attendre un peu au même genre de bataille qu'on devra mener à Montréal pour avoir aussi nos sites d'injection supervisés. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que c'est un dossier qui nous tient à cœur. On a fait une manif déjà au mois de mars, donc okay. C'est sûr que c'est pas fini.
Ah ben super. Ben merci beaucoup du temps accordé. Fait que oui, oui.
Ajouter quelque chose.
Ben moi j'aimerais ça rajouter que les gens en tout cas qui consomment des drogues, ben nous on est toujours super heureux de recevoir vos textes, vos photos, vos dessins, toutes les choses artistiques que vous faites. Fait que si vous voulez participer au journal, ben vous allez sur notre site internet l'injecteur.ca puis il y a nos coordonnées pour pouvoir nous envoyer vos belles œuvres.
Super. Puis moi, ben, je vais le mettre aussi à l'émission Noir les horreurs. On va le mettre sur le site, là, sur le lien Facebook. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis, ben, à une prochaine fois.
Cool.
Salut.
Jeudi dernier, il y avait le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui a organisé un forum sur la mobilité durable dans Saint-Jean-Baptiste. Et puis, on a Mathieu Courcel avec nous pour en parler. Mathieu, qui est organisateur au Compop et qui collabore, de ma foi, régulièrement à l'émission. Donc, pourquoi vous avez fait ça?
Bien, d'abord, la question du transport fait partie des préoccupations quotidiennes des résidents de nombreux quartiers au centre-ville. Bien, un peu partout à Québec, c'est un enjeu qui ressort de façon importante. Il s'agit d'aller dans les consultations publiques qui sont organisées, par exemple, sur le vélo boulevard, où il y a comme pas loin de 300 personnes qui sont venues. Il y a toutes sortes d'enquêtes qui sont réalisées, puis la participation est très, très forte. Et au quotidien, ici, au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, on se rend compte que c'est un sujet qui interpelle beaucoup les gens. Tout particulièrement depuis quelques années, la question de la circulation automobile qui devient de plus en plus présente dans les rues d'un quartier résidentiel comme Saint-Jean-Baptiste et qui finit par miner la qualité de vie de bien des gens là, qui résident dans le quartier. Et parallèlement à ça, ben, on se rend compte que les questions de transport en commun, la place du transport en commun à Québec, la place qu'on fait aux piétons et aux cyclistes au centre-ville, mobilise les gens et intéresse les gens. Donc, pour faire un peu le point sur cette question-là, puis amener aussi peut-être des pistes d'action et de réflexion pour aller plus loin, bien, on a décidé d'organiser une rencontre publique pour discuter de tout ça.
Donc, lors de ce forum-là, il y a Boris Mirixé, qui est un militant au comité aménagement du Comité populaire et aussi quelqu'un qui étudie ces questions-là, mm-hmm. qui a fait un état de la situation de la mobilité durable dans le quartier. Donc, quelle est-elle?
Bien, d'une part, il y a beaucoup de les gens de Saint-Jean-Baptiste utilisent beaucoup ce qu'on appelle le transport actif pour leurs déplacements quotidiens. Et ça, c'est beaucoup plus marqué dans Saint-Jean-Baptiste qu'ailleurs à Québec. Puis par le transport actif, qu'est-ce qu'on entend? Bien, on entend tout simplement la marche et le vélo. Alors, les gens de Saint-Jean-Baptiste se déplacent à pied ou en vélo pour faire leurs courses, pour aller travailler, pour leurs loisirs. Et de façon beaucoup plus importante que les résidents de d'autres quartiers à Québec, pour qui l'automobile reste encore là, le moyen de transport privilégié.
C'est quoi, c'est 40% à peu près des déplacements?
Oui, environ. Et là, l'autre chose qui est importante dans Saint-Jean-Baptiste, c'est qu'il y a de moins en moins de résidents qui, d'ailleurs, possèdent une voiture. En fait, en 10 ans, ce pourcentage-là a baissé de 10%. Donc, il y a 10% moins de résidents qui possèdent une voiture aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Pourtant, il y a plus de voitures sur la rue.
Et pourtant, il y a plus de voitures sur la rue. Et ça, c'est ce que les résidents, évidemment, soulignent constamment. D'où viennent ces voitures-là? Ben, il faut savoir que Saint-Jean-Baptiste, ou à proximité du quartier, c'est un pôle d'emploi important. Il y a la colline parlementaire, il y a le complexe G, il y a des milliers et des milliers de personnes qui travaillent aux alentours. Et ces personnes-là continuent d'utiliser en vaste majorité leur voiture pour se rendre au travail. Pour les études, c'est la même chose. Alors là-dessus, on a un problème. Il faut imaginer des pistes de solutions pour amener de plus en plus de gens qui travaillent dans le quartier ou aux alentours du quartier à se rendre à leur travail en transport en commun ou en transport actif.
D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une chose qui m'a semblé surprenante. Personnellement, c'est la part du transport en commun. S'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se déplacent à pied, en vélo, en skateboard, par contre, transport en commun, automobile, c'est sensiblement la même chose qu'ailleurs.
Oui, pour les résidents de Saint-Jean-Baptiste, effectivement. Et peut-être parce que les gens se sont rapprochés à un point tel de leur lieu de travail en résidant dans le quartier que le transport en commun ne devient plus l'option privilégiée pour ça. Puis parce que peut-être une offre commerciale aussi importante là, à proximité, que ce soit Saint-Roch, le Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, qui fait en sorte que même si on ne possède pas de voiture, on n'a peut-être pas le réflexe de prendre l'autobus ou le transport en commun, ou les autres modes de transport en commun. Là, bref, on en est là aujourd'hui. Il faut. On veut quand même trouver des solutions pour permettre aux gens du quartier de diminuer encore davantage leur dépendance à l'automobile, parce que dès que finalement notre lieu d'emploi c'est dans un parc industriel ou scientifique qui est très mal desservi par le transport en commun, puis qu'on veut vivre au centre-ville, on n'a pas le choix, il faut utiliser le char pour s'y rendre. Et ça a été ramené d'ailleurs dans le forum par une participante.
Justement, autre chose qui a été ramenée lors du forum, il y avait Valérie Borde du comité Action d'Aiguillon qui disait qu'en fait, il y a des gens qui se mobilisent sur la rue d'Aiguillon depuis 2002 contre la circulation de transit. Et en fait, en 8 ans de lutte, ils ont gagné 2 stops, un panneau de zone 30 et c'est à peu près tout.
Et le maintien d'un brigadier scolaire.
Et le maintien d'un brigadier scolaire, ce qui est somme toute important. Mais le constat est quand même dur, puis le comité populaire le faisait brièvement dans l'infobourg, je crois, il y a un certain temps. C'est bon... toutes les batailles possibles et imaginables pour avoir des mesures structurantes qui viendraient freiner la circulation de transit dans les rues résidentielles sont terminées avec des résultats, ma foi, très mitigés.
Ouais.
Donc, le constat est dur à ce niveau-là. Si les résidents utilisent de moins en moins la voiture, s'ils sont de plus en plus en transport actif, mais le problème est ailleurs, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des portes de sortie à ce niveau-là?
Ben, la première porte de sortie, c'est probablement d'accroître, comme je disais tout à l'heure, la popularité du transport en commun pour les gens de l'extérieur. Donc, mais c'est aussi probablement de trouver des façons de faire en sorte que le transport automobile n'entre pas dans les rues résidentielles. Mais là, sur la rue d'Aiguillon, on ne peut pas jouer des rues, une rue contre l'autre. Il va falloir, par exemple, en inversant le sens de la circulation sur une rue pour amener... La circulation va ressortir ailleurs. Donc, et les propositions les plus efficaces qu'on a fait ressortir, malheureusement, la ville les a pas retenues pour des raisons... souvent technique, il faut que la gratte passe, donc on ne peut pas réduire la largeur d'une rue, par exemple. Ou encore, il y a le fameux trajet de l'autobus 7 qui doit passer obligatoirement, doit suivre son cours. Et évidemment, ce trajet-là, qui est effectivement très populaire, mais occasionne, il faut le dire, là, son lot de bruit, etc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire les choses autrement? C'est en ce sens-là qu'on a fait une proposition, en fait, du côté du comité populaire. D'instaurer un parcours de proximité, d'autobus de proximité par la rue d'Aiguillon, de type écolobus, là, mais en fait, c'est pas qu'on tient particulièrement à ce petit autobus-là, mais actuellement, c'est le moins bruyant et c'est celui qui cause le moins de désagréments et surtout, il coûte pas cher par rapport à d'autres, par rapport au système en commun traditionnel. Donc, on s'est dit, on pourrait faire passer ce parcours de proximité-là qui ferait le lien, le pont entre différents lieux importants aux alentours des artères commerciales comme la rue Cartier, la rue Saint-Jean, le Vieux-Québec, mais aussi des lieux où beaucoup de gens résident, exemple la Grande Allée, là, où il y a beaucoup de résidences pour personnes âgées, où il y a peut-être beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir un parcours plus régulier, puis qui leur permettrait, par exemple, de faire des emplettes. Donc, on s'est dit, on pourrait travailler dans ce sens-là, puis simplement... faire en sorte que le parcours 7 passe par des rues qui ont déjà une vocation, où il y a déjà plus de transit et de un transport automobile plus grand et plus large, comme par exemple la rue Saint-Jean et le boulevard René-Lévesque. Donc, c'est simplement de retirer ça de l'aiguillon pour essayer de penser les choses autrement. C'est une proposition exploratoire. On veut continuer à la travailler parce que de toute évidence, ça
fait pas soulever les passions.
Non, ça fait pas l'unanimité. Mais c'est le rôle d'un comité de citoyens que d'essayer de trouver d'autres pistes puis d'explorer d'autres solutions parce que on peut pas juste se cantonner dans le statu quo. Et ça, c'est ressorti très clairement des gens. Les gens, en tout cas, qui étaient présents l'autre soir, ne veulent plus du statu quo. Aussi en matière de stationnement, ça c'est ressorti très très fortement, là, la question du stationnement qui est souvent perçue comme un problème pour les résidents et les résidentes. Ben, les gens ont quand même souligné qu'il y a une sous-utilisation aux alentours des stationnements privés intérieurs, en particulier le soir et les fins de semaine. Il aurait peut-être lieu de trouver des façons d'obliger ces grands propriétaires d'espaces de stationnement à moitié vide le trois quarts du temps d'offrir un tarif préférentiel pour les résidents du quartier. Et ça, ça pourrait permettre de dégager de l'espace pour réaménager certaines rues puis favoriser davantage la place des piétons.
C'est quand même assez hallucinant, la place de l'automobile. Oui, bon, il y a les automobiles qui circulent, mais aussi les automobiles sur rue qui sont stationnées. Il y avait quelqu'un d'Accès Transport Viable, Xavier Mercier-Mété, qui avait calculé que les voitures dans Saint-Jean-Baptiste, ça occupe 3 hectares, en gros.
Ouais.
Donc, si on veut faire des aménagements autres dans le quartier, il va falloir qu'on est en compétition pour l'espace avec des chars.
Entre autres, oui, effectivement. Et c'est sûr que il a bien précisé, puis je pense pas que c'est l'objectif non plus qu'on cherchait à atteindre, que de dire il faut plus de voitures du tout et en faire un quartier 100% piéton. Certaines personnes le souhaiteraient, évidemment. Mais on sait bien qu'à l'heure actuelle, ça serait contre-productif, puis ça serait pas du tout.
Il faut rééquilibrer les forces.
Exact, parce que cet équilibre-là est fragile, puis à chaque fois qu'il y a des compromis à faire, c'est souvent au détriment, justement, de permettre davantage de place aux piétons, qui, en tout cas, actuellement, ce qui ressort fortement, c'est que c'est comme ça que les gens se déplacent d'abord et avant tout dans le quartier. Alors, c'est un peu paradoxal que les gens du quartier, dans leur déplacement quotidien, et soit placé au second plan puis soit marginalisé au profit d'un autre mode de transport qui est loin d'être l'apanage de tout le monde dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Alors c'est sûr que le quartier la façon dont le transport est organisé dans le quartier est tributaire de la façon dont ça se passe ailleurs à Québec, et c'est un peu cette autre chose-là qu'on voulait confronter puis bouleverser.
Pour terminer, c'est sûr qu'on un comité de citoyens dans un quartier a pris sur ce qui se passe dans le quartier, sur les enjeux régionaux, c'est un peu plus touché. Il y avait la question des stationnements en périphérie, la question d'améliorer le transport en commun, entre autres un circuit de proximité. Sinon, l'autre grande solution, ça reste un transport léger serein, un tramway finalement, qui va permettre à tous ces travailleurs et toutes ces travailleuses de la colline parlementaire d'avoir une expérience agréable de transport en commun pour venir travailler. Est-ce qu'on a pris sur ce genre d'enjeu-là ou on fait juste
suivre le courant? Comme comité de citoyens, on s'est prononcé là-dessus en intervenant sur la place publique, en présentant un mémoire lors des consultations sur le plan de mobilité durable. Puis il y a des dizaines d'autres groupes qui ont fait la même chose. Concernant le tracé du tramway, par contre, il faut bien reconnaître qu'il va en rester très, très peu de choses quand on va arriver dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. En fait, le trajet va soigneusement contourner le quartier et on va être une fin de ligne, en fait. La fin de ligne du tramway va être le Grand Théâtre et le Complexe G. Donc, on voit bien la nature, disons, utilitaire pour les travailleurs et les travailleuses, ce qui est une bonne chose. Mais pour ce qui est des déplacements quotidiens des gens de Saint-Jean-Baptiste, par exemple, vers l'Université Laval, par exemple, ben le tramway ne sera malheureusement, je crois, d'aucune utilité là-dessus.
Ça va peut-être réussir à faire baisser la circulation de transit, mais ça ne fera pas augmenter la part du transport en commun dans les déplacements des résidents.
Non, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des suites à donner à ce forum-là? Je pense qu'il y en a un autre.
Oui, en fait, le 26 mai, on reprend l'expérience, mais cette fois-ci en regardant de façon croisée le développement de 3 quartiers du centre-ville de Québec, soit le quartier Saint-Roch, le quartier Saint-Jean-Baptiste et le vieux Québec. On va voir, ces quartiers-là ont une histoire au cours des dernières années, connu des développements assez différents. Et en fait, ce qu'on veut regarder, c'est quelles grandes orientations sont derrière ces choix-là et qu'est-ce que ça allait supposer pour l'avenir. Pour répondre finalement à une question fondamentale à nos yeux, dans quel centre-ville on veut vivre, de quel centre-ville veut-on? Alors, c'est évidemment une question qui est importante parce que comme résident, on doit avoir notre mot à dire et on doit faire entendre nos voix pour que les choses changent dans le meilleur des sens.
Donc, si les gens sont intéressés à ça, c'est jeudi le 26 mai à 19h à la bibliothèque
Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean.
Ben, Mathieu Lecourcelle, merci.
Merci beaucoup.
On est avec Jenny pour son bloc international.
Ça, international et local aussi. Premièrement, pour les nouvelles, c'est vraiment salutaire pour Rue Frontenac. C'est le site Internet né du Locrat original de Montréal. Elle va annoncer la fin du conflit québécois et est en négociation avec un investisseur important pour assurer sa survie. Sauf que malheureusement, on a appris que les négociations ont échoué. Rue Frontenac a depuis tendu des perches à d'autres groupes, mais il faut de trouver un partenaire et d'envisager la fermeture dès vendredi. Selon Jean-François Coderre, qui est journaliste, cofondateur et coordonnateur du site, ça fait 3 semaines que les gens ne sont plus payés. Il y a une possibilité pour que Rue Frontenac s'éteigne d'ici la fin de la semaine. Malheureusement, on en est là. Autre chose, M. Coderre, il se pourrait que l'échéance de vendredi, qui arrive dans 2 jours, pourrait être repoussée s'il y a des développements significatifs d'ici là, mais honnêtement, ce n'est pas joué. Puis selon un autre journaliste qui a été joint par la presse, on a la semaine pour trouver un plan B. Ce média-là, qui est un média indépendant qui a été fondé en janvier 2009 par les 253 syndiqués de la côté junior de Montréal, avait obtenu rapidement ce succès d'estime. Le site s'est accompagné d'un hebdomadaire imprimé lancé l'automne dernier qui tirait à 75 000 exemplaires, dont on pouvait en trouver des exemplaires à Québec, dont la publication a cessé le 28 avril. M. Coderre estime qu'il faudrait de 2,5 à 3 millions de dollars pour consolider le modèle d'affaires du site la première année. Selon lui, les médias dépendants dans l'univers de la presse québécoise, ils ont pas la vie facile. Ça nous a fait réaliser à quel point ce n'est pas évident de penser à lancer une entreprise. Il y a des grands crocs des habitudes du lectorat et des annonceurs qui sont durs à déplacer. Je ne sais pas si ça fait référence à ce journal de Montréal dans cette phrase-là, mais bon. On ignore les raisons pour lesquelles les négociations de Rue Frontenac avec cet investisseur potentiel ont échoué.
Ça veut dire que moi, j'en ai vu un exemplaire de Rue Frontenac dans le présentoir là, à l'entrée de la JT, là. Puis, fait que c'est probablement peut-être le dernier qu'on trouve. Fait que mettez la main dessus, là, il n'y en aura plus après.
C'est ça. Surtout que depuis que c'est le 28 avril, qu'il n'y a plus de copies papier. Dans un tout autre ordre d'idée, c'est le Vatican qui a manqué ses obligations internationales vis-à-vis de la protection des enfants dans des affaires d'abus sexuels commis sur des mineurs commis par des prêtres, selon l'Amnesty International, qui fait cet état-là dans son rapport annuel qui a été publié vendredi. Le Saint-Siège n'a pas suffisamment respecté ses obligations internationales sur la protection des enfants. Selon Amnesty, qui a consacré pour la première fois un chapitre spécifique au Vatican dans son rapport annuel, selon une porte-parole. Donc, un rapport annuel peut être chapitre, c'est juste le Vatican. Que c'est donc beau, les christianismes. L'ONG mentionne des preuves croissantes d'abus sexuels concernant les enfants commis par des membres du clergé ces dernières décennies et les capacités persistantes de l'Église catholique à faire face à ces crimes de manière appropriée. Ça fait plusieurs décennies, ils ont toujours pas trouvé la manière de s'en occuper.
Ouais, puis en fait, souvent, on se demande s'ils contribuent pas justement au problème, puis s'ils contribuent pas à le cacher, le problème, tu sais.
Ouais, en fait, le problème, parce que souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste protéger les prêtres pédophiles, puis ils sont contents de le mettre à notre place. Bon, OK, là, t'as abusé d'enfants dans telle ville, ben va en abuser dans l'autre ville. Non, c'est carrément ça. L'Église, ben même s'il avait renforcé la loi canonique sur le sujet... Ben, mais cette dernière ne comporte pas l'obligation pour les autorités ecclésiastiques d'informer les autorités civiles en vue d'une enquête criminelle. Le secret est obligatoire pour donner la procédure. Fait que, ils n'ont pas le droit d'appeler la police pendant ce temps-là. Ils vont enquêter, puis s'ils veulent, ben, ils vont crisser le pâte à nos plates, puis ça sortira même pas, en fait. Sur un plan international, le Saint-Siège n'avait toujours pas rendu fin 2010 son rapport sur la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Ça fait 13 ans qu'il était supposé le déposer. C'est en 1997. Puis le rapport sur la Convention contre la torture qui était prévu pour 2003, ben ça, c'est pas encore rentré. Là, ça fait après 7-8 ans. Le scandale des prêtres pédophiles avait atteint son paroxysme en 2010 et des révélations en chaîne en Belgique, en Allemagne et en Irlande. Donc, ça va falloir des scandales pour qu'ils allument. Puis ça, ouais. Ces scandales-là de pédophilie, ben non, tu n'entendras pas parler, participant de la marche avec Jésus, ça marche, le 4 juin à Québec. Hein?
Le 4 juin, c'est un rendez-vous. Merci, Jenny.
De rien.
Et voilà, vous écoutiez Voix de fait. L'émission du collectif NHH la nuit. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.